Vous écoutez les amateurs de sport, on est ensemble jusqu'à 21h, j'en parlais un peu plus tôt, on aura Bruno Gervais, il y a du coulage au département des signatures dans la Ligue nationale d'hockey, on va en discuter. On parle également avec Jean-Luc Brassard, sera avec nous, Antoine Roussel également, il sera. On parlait, c'est l'ouverture des camps d'entraînement dans la NFL et Aaron Rodgers s'est présenté à Green Bay, Wisconsin. On va en parler également avec Bruno Eppel, mais juste avant, on poursuit à la suite de cette superbe entrevue avec le père de Maud Charron, Jean Charron. On poursuit notre couverture olympique avec notre représentant à Tokyo, M. Marc Durand. Salut Marc.
Salut Martin.
Comment ça va?
Ben ça va. Écoute, tu peux pas aller mieux. Là. Une journée comme on a connue avec 4 médailles, on a doublé le total de médailles, des médailles inspirantes et aussi des histoires plus tristes, évidemment. Ça arrive, c'est ça les jeux, ça passe ou ça casse, mais ça a été une journée remplie d'émotions. Alors vraiment, ça va bien. Si la question était comment ça va bien.
Tant mieux. Puis moi, Marc, j'ai trippé ce matin, j'ai regardé en direct Maud Charron. Puis tu sais, on parlait ensemble à quel point, puis tu sais, Jean-Luc Brassard, Marianne Saint-Gilles m'ont tout dit « Ouais, j'embarque pas encore moi non plus. » Fait que tu sais, c'est pas juste monsieur, madame, tout le monde. Mais un matin, en regardant Maud, le bâton dans les airs, sourire, crier parce qu'elle sait qu'elle l'a fait, que c'est terminé, j'ai eu un trip solide.
Ah, ben écoute, je te comprends, puis j'espère que beaucoup de gens qui ont vu ça, sinon, mais c'est sûr qu'en reprise, quand on sait le résultat, c'est autre chose, mais l'haltérophilie, c'est quelque chose qu'on ne retrouve dans aucun sport. Lorsque tu es la dernière à faire une levée, tu l'as réussi. Tu sais que tu as gagné, puis tu as la charge au-dessus de tes bras. Il n'y a pas un adversaire à terre, il n'y a pas un chrono qui a déterminé qui avait gagné. Il n'y a pas un juge qui te dit « oui, tu mérites ça aujourd'hui, pas elle ». C'est imbattable. Et puis, Maud Charron, ça a été, écoute, quelle performance. Un travail colossal avec son entraîneur, Jean-Patrick Millette, à savoir, bon, ben tel adversaire demande telle charge, on va faire un kilo de plus, on va juste les provoquer un peu. Il y avait vraiment un jeu de chat et la souris. Mm-hmm. C'est vraiment intéressant pour ça, l'haltérophilie. Et elle a fait peur aussi à sa deuxième levée. Je me souviens que son père en a parlé lorsqu'elle a arrêté sa première levée à l'épaule jetée à 128 kg. 2 minutes après, son entraîneur l'avait dit, elle est capable de rebondir. Elle est capable. Et puis elle l'a fait.
C'est incroyable. Non, mais après ça, ça pas bien. J'en ai pas parlé, mais il n'y avait même pas d'inquiétude. Ce que je dis à son père, c'est elle semblait être réglée au quart de tour, alors que tout était périlleux pour à peu près tout le monde. Elle semblait être une métronome, c'était business as usual. C'était on rentre travailler, on fait la job, puis on rentre à la maison.
Il y a quelque chose qu'elle nous a dit qui moi, me parle, puis j'imagine que ça va parler peut-être à des gens qui se posent la question encore, est-ce qu'on doit faire du sport de haut niveau très jeune, à temps plein? Elle a dit, tu sais, moi, j'ai commencé, j'ai fait de la gymnastique. Alors, j'ai appris, tu sais, mon corps s'est battu au complet, pas juste un élément ou deux, là, pas juste un chest-bras. Après ça, elle a fait des arts du cirque. Donc, de performer devant sur une scène, devant des gens, avec la pression, les regards des autres. Après ça, elle a fait de la musique aussi. La concentration, elle a fait du hautbois, imagine, c'est comme c'est pas de la guitare western, c'est autre chose. Et puis après ça, elle est arrivée en fitness, où là, elle a vraiment compris que son corps avait un talent pour la puissance, pour, à 19 ans, commencer l'haltérophilie. Aujourd'hui, à 28 ans, elle est championne médaillée olympique. Elle n'a pas fait de l'haltérophilie depuis le secondaire 1, là. Elle a fait d'autres choses qui l'ont amenée à ça. Moi, je pense qu'elle va se croire. C'est le message qu'elle avait à dire. J'ai un parcours qui n'est pas atypique, mais il fonctionne aussi.
Non, c'est clair, puis son papa disait la même chose. Tu sais, la ligne, elle est mince entre pousser son kid et encourager son kid. Puis lui, il disait fallait être à l'écoute. Oui. Puis il dit, quand il essaie tant pas de se lever pour aller à sa pratique, il y a une ligne entre respecter ses engagements, puis ça ne tente plus de faire ça. Visiblement, il l'a non seulement encouragé, mais s'est entraîné comme Rocky dans le garage. En tout cas, regarde, il y a plein de belles histoires. Elle a parlé également de Christine Girard, qu'elle a eu une pensée pour elle avant sa dernière poussée.
J'ai parlé à Christine, hein. C'est parce que tout de suite, en fait, je me rappelle au point de presse, j'ai simplement dit à Maud, tu sais que c'est la première fois qu'on va entendre au Canada aux Jeux olympiques en haltérophilie, parce que on le sait, là, Christine a remporté sa médaille d'or, mais à la suite de 2 disqualifications 5 ans plus tard. Alors, sa médaille d'or de 2012, elle l'a pas vécu en 2012, elle l'a eu en 2017 alors qu'elle vivait à Vancouver. Puis Maud le disait, moi, c'est... Je pensais à elle derrière. Je me disais, ce serait le temps qu'on en gagne une ensemble. Et c'est ce que Christine disait. J'ai ressenti, en voyant Maud lever les barres, c'est comme si ça venait de combler un vide. Wow. Ce qui m'a toujours manqué. J'ai vécu ça avec elle. Et puis, il était très, très ému de tout ça. Puis, en plus, c'est un hasard, c'est un beau hasard, mais ils ont levé les deux la même charge, 236 au total. Là. Donc, exactement le même poids total. Donc, sa performance en 2012 dans la même catégorie. Et maintenant, Maude qui a réussi la même levée. C'était magique, effectivement.
Marc, j'étais en onde quand Catherine Beauchemin-Pinard était au judo sur le tapis. Oui. Fait que je me levais à la tête, puis je continuais à travailler. Je me levais à la tête. Puis là, j'étais là, mon Dieu, ça va pas bien, tu sais, de ses affaires. Je me relève la tête, elle l'a emporté, remporte une médaille, elle aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. C'est toute une histoire, ça aussi.
Ben écoute, ça a été d'abord une journée de rêve pour elle, le quatrième sommet, donc on s'attendait à ce qu'elle fasse bien, mais elle gagne son premier combat facilement, elle gagne son deuxième combat assez facilement, en quelques secondes, ça arrive, c'est comme ça le judo. Troisième combat, oups, ça gagne encore, là ça commence à être sérieux, et arrive la demi-finale contre la Française, dont je n'oserais prononcer le nom, parce que un, je ne me rappelle pas, puis deux, il est trop compliqué, mais c'est une Française. Puis, elle est imbattable. Elle est complètement imbattable. À la limite, on se disait, sur la galerie de presse, on se disait, peut-être qu'on devrait simplement laisser tomber ce combat-là, perdre vite, pour pas se fatiguer pour le combat de la médaille de bronze. Non, elle s'est quand même battue jusqu'au bout. Et puis, elle est revenue en finale. Ça a été long, ça aussi, finalement. Un simple point qui fait la différence. Et voilà, elle est médaillée de bronze. Deuxième médaille pour le Canada en judo. C'est la première fois que ça arrive. On a eu des doubles médaillés, mais on a eu un, Nicolas Gill, en soins de ballon portier, des exemples même en 64, à la naissance de ce sport-là, au Japon, en plus. Et puis, ben là arrive ce doublé avec elle. Et puis, c'est très magique, très important pour le judo, parce qu'on le sait, hein, ce sport-là a beaucoup de difficultés par les temps qui courent. Ils ont perdu beaucoup d'inscriptions avec la pandémie. Il y a seulement 20 000 judokas dans tout le pays. En France, ils sont 750 000. On se bat comme une nation. Ouais, c'est vraiment ça. Il y a d'autres pays également. Là, c'est vraiment un sport mondial. Ça se pratique dans tous les pays dont on n'entend jamais le nom, sauf aux Olympiques. Et en plus, dans des grands pays. Et puis, Nicolas, ce qu'il fait avec son groupe, c'est fantastique. Tout ça se fait à l'Institut national des sports. L'équipe nationale est basée là-bas aux Jeux Olympiques. Et puis, c'est une grande victoire pour Catherine et une grande victoire pour le judo canadien. Malheureusement, il y a eu des défaites pour l'ambassadeur de ce sport-là. Ouais. Celui qui a tout permis ça, Antoine Valois-Fortier, qui a perdu à son deuxième combat, 5 ans de haut et bas après sa déconfiture des Jeux de Rio, médaillé en 2012. Mais Nicolas Guil l'encensait parce qu'il dit, si je suis ici aujourd'hui, si on a 6 judokas à ces Jeux, si on a 2 médailles jusqu'à maintenant, c'est juste à cause de lui. Parce que tout l'argent qu'on a en judo vient pas des commanditaires, puis de la visibilité, elle vient du gouvernement fédéral. Ça fonctionne comme ça au Canada. Si on performe au jeu, on a de l'argent. Sa médaille en 2012 a fait en sorte qu'on a de l'argent puis qu'on peut développer le sport.
Et là, alors, ça sera.
C'est vraiment important ce qui s'est passé.
Oui. Et cela, ça sera au fait d'amener l'eau au moulin. Puis, sais-tu quoi?
Oui.
C'est le fun. S'il y a des machos qui nous écoutent, ben, habituez-vous au Girl Power parce que toutes les médailles olympiques jusqu'à maintenant, c'est des médailles féminines.
Absolument, absolument. Puis c'est drôle parce que les gens commencent à m'écrire, écoutons, il y a juste des filles qui sont là pour le Canada. À la blague, évidemment.
Ouais, mais c'est eux qui livrent la marchandise. Exactement.
Ben, c'est ça. Puis 22 médailles à Rio, 5 par les gars seulement. Alors, ben c'est ça. Ça va être comme ça à la piscine aussi. Ça va être comme en athlétisme, par contre, André DeGrasse, Damien Warner, coureur de 5000 mètres également, Ahmed, même Evan Bundy. Il y aura des hommes en athlétisme. On espère dans d'autres sports aussi, mais c'est vrai que c'est une question de femme depuis le début des Jeux. Et tant mieux.
Marc, il nous reste pas beaucoup. Raconte-moi ce qu'on suit aujourd'hui. Des possibilités de médailles. Puis tu sais, on n'a pas parlé du softball. On en reparlera une autre fois. Les filles qui ont gagné contre le Mexique pour une médaille.
Oui.
Encore une fois, girl power.
Oui.
Mais parle-moi d'aujourd'hui ce qu'on souhaite.
Effectivement. Aujourd'hui, ben il y a de l'aviron. Pas qu'on suit moins un petit peu, mais il y a une fille qui s'entraîne à Montréal depuis 10 ans. Gabrielle Smith, qui est dans le duo potentiel de médaille, en tout cas. C'est pas certain que ça va bien se passer. En boxe, 2 Québécoises, Caroline Vert et Tamara Thibault. Tamara, dans son cas, c'est son premier combat. Elle est pressentie pour une médaille. Une belle histoire. C'est la fille d'un joueur de football qui a joué pour la Saskatchewan. Et elle a voyagé partout au Canada, donc elle est ni de la Beauce, ni de Halifax, ni de Regina, mais elle est du Canada. Oui, elle est du Canada. Puis, Félix Auger-Aliassime en double, premier match avec Gabriel Dabrowski. À fond, par contre, un duo classé numéro 2, un duo grec. avec Stefano Tsitsipas, entre autres. Alors, on espère que son chemin sera plus long que celui qu'il a obtenu en simple.
Oui, ça ne sera pas facile. Marc, j'adore nos conversations. On se redonne rendez-vous demain?
Moi aussi. Absolument.
Merci beaucoup, Marc. Marc Durand, en direct de Tokyo. Merci, Marc.
Bye.
OK. Écoutez, je pensais que c'était fini de parler de Logan Mayhew. Là, les commanditaires reculeraient. Le premier ministre du Canada en a parlé. On va en parler avec Philippe Quentin dans quelques instants. Vous écoutez les amateurs de sport.